your dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Puis l'Amérique, qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du vendredi 2 février 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons du Black History Month, une commémoration annuelle qui se tient en février aux États-Unis, mais aussi dans certains pays étrangers comme le Canada et le Royaume-Uni. Il s'agit d'un temps de reconnaissance du rôle central des Noirs dans l'histoire de ces pays. Pour en parler, nous recevons trois invités. Le professeur Mohamed Bodge, il est professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Junior Bonpetti, entrepreneur d'origine congolaise basé au Texas. Il est activiste politique affilié au Parti républicain. Il est surtout le fondateur du mouvement Congolese for Trump. Et enfin, nous aurons depuis Paris en France, Joël Didier Engo. Il est activiste des droits humains, spécialiste des relations internationales, président du comité de libération des prisonniers politiques. Il est basé à Paris en France, je l'ai dit. Alors, nous les retrouverons tout à l'heure dans quelques instants pour commencer les échanges. Voilà, on commence donc les échanges. On parle donc du Black History Month qui est célébré en février. Alors, on retrouve pour commencer le professeur Mohamed Bodge, il est professeur d'histoire. Alors, professeur Mohamed Bodge, pour vous l'historien, est-ce que vous pouvez nous situer sur les origines du Black History Month, pourquoi cela a été institué et à quoi renvoie ce mois, cette célébration?
Bonjour, oui. C'est un peu le constat, en particulier après la guerre civile, que les Américains noirs n'étaient toujours pas considérés, disons, comme faisant partie de l'espace américain, et en particulier au début du 21e siècle, où vraiment on peut dire que a commencé le siècle d'or des États-Unis, l'apport des Noirs avait été complètement mis sous silence. C'est à ce moment-là donc que quelqu'un qui s'appelle Carter Woodson, donc qui est un homme de science, qui est né en Virginie dans les années 1870 et qui donc a bénéficié un peu de l'effort d'éducation suite à la Reconstruction, a décidé en 1926 de démarrer la première semaine de l'histoire noire, donc Black History Week. Et donc, il a choisi le mois de février et qui correspond, disons, au mois de naissance des deux héros des Noirs américains de l'époque et peut-être même de toujours, le président Lincoln et Frederick Douglass. Donc, c'est l'anniversaire, le mois de février et leur année et leur mois de naissance. Et c'est à ce moment-là qu'il a choisi de faire en sorte qu'on célèbre cette semaine. Alors, cette semaine va être élargie pour devenir un mois, en particulier en 1976. Et depuis lors, donc, c'est là où on a le Black History Month.
Merci beaucoup pour ce rappel historique, professeur Mohamed Bodge. Retrouvons Junior Bonpetti, qui est basé au Texas. Junior Bonpetti, alors... le professeur Mohamed Bodge vient de nous le dire, c'est une manière de célébrer un peu les Noirs et leur contribution dans la construction de la société américaine. Alors, cela fait plusieurs décennies déjà que cette célébration a lieu. Vous, aujourd'hui, comment vous voyez cette célébration? Est-ce qu'elle a toujours lieu d'être? Il faut dire que la société américaine est construite par des ressortissants de plusieurs races, des Blancs, des Indiens, des Rouges, des Jaunes et tout cela. Est-ce que c'est encore nécessaire de nos jours de célébrer particulièrement le rôle des Noirs dans la société américaine?
D'abord, merci à tous les invités. Effectivement, oui,
c'est important de célébrer le mois de noir américain aujourd'hui. Nous célébrons le noir astronaute, scientiste, inventeur, artiste, activiste du passé, comme Martin Luther King Jr., mais aussi et surtout, nous célébrons la montée des hommes d'affaires et femmes d'affaires noirs comme Oprah Winfrey, comme Tyra Perris, LeBron James. Ils sont nombreux qui influencent les générations d'aujourd'hui et même les générations à venir. C'est vraiment important de mettre l'emphase sur l'apport de noirs pendant ces mois.
Retrouvons à Paris Joël Didier Engo. Joël Didier, alors, est-ce qu'en France on a les échos de cette célébration? Comment est-ce que vous voyez cela vu de la France, du rôle des Noirs aux États-Unis et peut-être dans la société française où vous vivez?
C'est le bonjour à vous tous et c'est le grand regret que j'ai, c'est que elle passe complètement inaperçue en France. Et c'est en cela que ça correspond en fait au contexte européen en général, où on a un repli réactionnaire très accentué et où toutes les revendications liées aux minorités et à la visibilité notamment des Africains, des Noirs africains diront, se ramènent toujours à des questions de victimisation. Alors que ce n'est pas ça, c'est d'abord une commémoration de la mémoire. À travers la mémoire noire, on commémore en fait la mémoire de toutes les minorités. Ce que vous voyez aux États-Unis, vous voyez bien qu'au moment du combat pour les droits civiques, une organisation comme le NAACP a non seulement défendu d'abord les Noirs, mais après est devenue une revendication qui défendait toutes les minorités. Et c'est en cela qu'en France, nous menons ce combat qui est très difficile dans le contexte actuel. Et je ne vous cache pas qu'il passe complètement inaperçu parce qu'on a une lame de fond qui est, disons, le mot raciste et xénophobe actuellement avec la progression des partis d'extrême droite qui noient complètement toutes les revendications liées à l'esclavage, à la colonisation et à tout le reste qui nous amène à une forme de victimisation et c'est un combat permanent et de tous les instants.
Alors, professeur Mohamed Bodjou, vous venez d'écouter Joël Didier Engo employer le terme de victimisation. Justement, je voudrais vous interroger sur la manière dont est célébré le Black History Month ici aux États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un mois pendant lequel on célèbre véritablement les grandes figures de la race noire aux États-Unis, ou est-ce que vous avez l'impression que pour le citoyen américain ordinaire, c'est peut-être l'occasion de poser les revendications, notamment la police qui continue parfois à tirer sur les, à tuer les Noirs, les Noirs qui n'ont pas accès à certains services. Est-ce que le Black History Month aux États-Unis, c'est véritablement les problèmes que rencontrent les Noirs qu'on pose, ou alors ce sont les grandes figures de l'histoire américaine qu'on célèbre?
Je pense que que l'insistance et surtout sur ce qu'on peut appeler, pour utiliser une vieille expression, défense et illustration de ce que les Noirs ont apporté et signifient dans l'histoire et dans le présent des États-Unis. Vraiment, il y a cette projection de ce que les Noirs ont achevé. Je crois que mon collègue de Dallas ou de Houston, je m'excuse de confondre un tout petit peu. Donc, Junior a dit, c'est effectivement une célébration de ces achievements. Mais en même temps, aussi, c'est une façon de dire à leurs voisins, à leurs collègues, et dans les écoles, donc les enfants noirs s'asseyent à côté d'autres groupes ethniques, de leur faire découvrir aussi qu'il y a une histoire partagée, mais en même temps que dans cette histoire partagée, il y a un chapitre particulier pour les Noirs, que ce chapitre soit lourd parce qu'il est très enferré dans l'esclavage, certes, mais c'est aussi un chapitre optimiste parce que depuis lors, les Noirs ont fait de très gros progrès et veulent faire d'autres progrès. Et tout cela inscrit un peu dans cette trajectoire de l'Amérique, la plus grande nation sur Terre, et les Noirs participant à cette œuvre. Alors, évidemment, il y a de l'autre côté maintenant ce qu'on peut appeler des symposiums qui sont plutôt à caractère scientifique. Il y a aussi, bien entendu, des mouvements de protestation pour dire que tout ça, c'est de l'hypocrisie. Mais en même temps aussi, il y a quelquefois même des expositions simplement pour montrer qu'il y a un génie noir qui fonctionne dans ce pays, et en particulier sur le plan artistique. Donc c'est aussi un mois où on va trouver beaucoup de d'expositions, beaucoup de concerts, etc., etc.
Alors, Junior Bonpetit, est-ce que vous avez véritablement l'impression que, justement, les Noirs, le rôle des Noirs est assez reconnu ici aux États-Unis, en dehors du Black History Month, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des plafonds de verre, des choses que les Noirs ne peuvent pas faire, ou les niveaux où ils ne peuvent pas accéder du fait de la couleur de leur peau? Est-ce que ça existe véritablement dans la société américaine?
Merci pour la question. J'aimerais encore insister sur cet aspect des choses, que de l'art à la médecine, de l'éducation, la musique, l'invention culturelle, l'entrepreneuriat, les leaders du mouvement citoyen, les lauréats du prix Nobel, etc. Le noir américain ont joué un rôle crucial pour façonner l'Amérique d'aujourd'hui. Donc, je pense que la discrimination peut y avoir, mais ce sont des choses que nous devons saisir l'opportunité pendant ces temps d'essayer un peu de condamner cela, de la discrimination, parlant de police, l'approche qu'on a des polices, et tout ça. Il ne faut toujours pas voir les choses aux côtés des policiers, aussi du côté de nos compatriotes noirs américains, de respecter l'agent de la police parce qu'il n'est pas ton ennemi. Et nous avons fait une campagne ici au niveau de Dallas, la police est mon ennemi et mon ami. La police is my friend. Donc tout ça pour casser un peu des barrières érigées entre le noir, le jeune noir et les policiers. Donc je pense que le noir a beaucoup avancé et a beaucoup apporté dans cette société américaine que nous devons valoriser et mettre en avant.
Joël Didier Ngo, le président Barack Obama, c'était le premier Africain-Américain, a été élu. Est-ce que vous avez l'impression que son élection a changé quelque chose dans la perception du reste de la population ou du monde sur les Noirs américains? Est-ce que vous avez l'impression que cette élection a changé quelque chose pour les Noirs américains?
Dans cette élection a changé beaucoup de Noirs américains et de Noirs en général, y compris en Afrique, disent toujours que ça n'a rien apporté. Elle a apporté en termes de symbolique. Voir un Noir qui accède au bureau ovale, ça avait une portée très importante. Pas parce qu'il est simplement noir, mais parce que c'est une minorité qui a longtemps été, qui avait ce plafond de verre. Vous vous souvenez, il y avait aux États-Unis souvent des gens comme Condoleezza Rice qui était secrétaire d'État, il y avait Colin Powell, mais ils ne franchissaient pas le dernier seuil. Et ce seuil a été important parce que ça donnait, crédibiliser enfin le fait que un homme noir peut diriger les États-Unis tout en étant un président américain à part entière, sans qu'on ne lui accole toujours tous les préjugés qui avaient accablé Jesse Jackson et les autres avant Barack Obama. Donc, c'est en cela que c'est important. Et comme le disaient mes amis qui sont aux États-Unis actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai vécu aux États-Unis et je vis en Europe maintenant. Aux États-Unis, vous avez l'avantage d'avoir des Noirs qui sont vus dans les médias, qui sont vus quand vous regardez un JT, un journal télévisé, vous voyez des Noirs. Vous voyez des Noirs qui sont dans tous les secteurs d'activité. En Europe, nous avons d'abord un problème de visibilité. Parce que si vous n'êtes pas vu, votre histoire n'est pas connue. Et ce devoir de mémoire qui doit être fait sur les conquêtes qui doivent être martelées, que ça n'a pas été acquis. Les droits ne sont pas acquis. Il faut se battre tout le temps pour les garder et pour les préserver. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec l'affirmative action dans les universités. Nous, ici en Europe, nous vivons autrement. C'est que nous voulons d'abord une visibilité. Et en cela, Barack Obama a vraiment été d'un apport essentiel parce qu'il a crédibilisé le fait qu'un homme noir peut être un chef de l'État, la première puissance mondiale. Au-delà de la première puissance mondiale, peut assumer des fonctions essentiel d'un État et même des grandes entreprises, ce qu'on ne voit pas en Europe, ce qu'on ne montre pas assez en Europe. Vous avez des pays comme la France aujourd'hui, malgré son histoire coloniale, qui n'a pas un homme noir, je dis bien un homme noir, pas une femme, un homme noir au gouvernement. Vous n'en voyez pas.
Alors, professeur Mohamed Mbodj, nous sommes justement en 2024, c'est une année électorale aux États-Unis et évidemment, les Noirs qui représentent une bonne frange de la population américaine vont certainement peser sur la campagne électorale et la stratégie des principaux candidats. Comment est-ce que vous voyez le rôle que les Noirs peuvent et vont peut-être jouer dans cette campagne pour chacun des principaux candidats?
Il est certain que les démocrates comptent sur le vote noir d'une manière beaucoup plus solide que les républicains. Les républicains, souvent, leur ambition, c'est simplement de convaincre quelques noirs ici ou là de façon à renverser sur la marge ce qu'on peut appeler une majorité qu'on peut prédire du côté démocrate. Donc, le jeu des démocrates maintenant, c'est de renforcer cette majorité noire, c'est de mobiliser les noirs parce qu'il y a une sorte d'érosion ou en tout cas de status quo ou peut-être même d'atavisme, disons, ou de manque d'intérêt des jeunes. Et donc, pour le cycle courant des élections, les démocrates vont beaucoup insister sur le vote des Noirs et sur le vote des femmes. Et de ce point de vue-là, on va voir, en particulier lorsqu'on va s'engager dans les primaires en South Carolina, dans la Caroline du Sud, que Biden va mettre le paquet pour effectivement apparaître comme le seul candidat qui puisse prendre en compte les intérêts des Noirs dans un pays où, qu'on se le dise ou qu'on se le dise pas, il y a de plus en plus une sorte de montée effrontée de certaines visions soi-disant basées sur la liberté d'opinion, etc., etc., et qui en réalité visent donc à délégitimiser le pouvoir des Noirs, la montée des Noirs, leurs aspirations, leurs revendications, et à restreindre même quelquefois dans certains comtés des États-Unis, dans certains États, donc le vote noir et à le supprimer pour à une portion congrue. Donc c'est un moment extrêmement important et intéressant, et l'électorat noir, je crois, va se trouver au centre de toutes ces considérations.
Sur la même question, on va écouter Junior Bonpetit, hein, qui aura certainement un point de vue intéressant, parce que je rappelle qu'il est le fondateur de Congolese for Trump. C'est l'un des Noirs qui est célèbre ici aux États-Unis pour avoir d'origine africaine, pour avoir publiquement affiché son soutien à Donald Trump. Alors, Junior Bonpetit, sur cette même question, les Noirs, comment est-ce qu'ils ils vont contribuer et comment est-ce qu'ils vont peser dans cette campagne présidentielle pour les deux candidats? Je rappelle que vous êtes affilié au Parti républicain. Vous êtes proche du Parti républicain.
Merci beaucoup pour cette question. Si vous permettez, je vais juste revenir sur la question que vous avez posée à notre ami de la France. Certes, la question de Barack Obama était bien du symbolique, l'image et tout ça était bien, mais l'élection de Barack Obama n'était pas un cadeau pour le noir. C'était une bataille rude avec Mme Clinton, on peut se rappeler. Et Barack Obama nous a causé beaucoup plus du tort que du bien, étant noir en général et africain. Pendant son mandat, il a déporté beaucoup plus de noirs en Afrique et nous avons connu l'assassinat froid de notre père Kadhafi pendant son mandat avec sa bénédiction. Donc, le cas de Barack Obama, c'est une page noire pour nous, les afro-descendants. Alors, pour revenir à votre question, c'est que, monsieur le professeur d'histoire, je suis très d'avis d'entendre parler de lui, et il sait qu'à la base, il convient avec moi que les Noirs, à la base, étaient d'abord républicains. La preuve, les 23 premiers sénateurs noirs étaient d'abord républicains. Et ces changements, ces mouvements a changé en 1965 lors de droit de vote avec London B.J., London Jackson, le président qui a signé, qui a donné le droit. Et oubliant que cette loi a été promulguée ou poussée par les congrès majoritairement républicains. Alors, les démocrates ont saisi la balle au bon pour manipuler la population noire et pour voter ces derniers. Et depuis lors, ils ont commencé majoritairement à voter pour les démocrates. Mais en 2020, nous avons vu une franche majorité ont voté pour le candidat Donald Trump. Et en 2024, beaucoup de noirs vont encore voter massivement pour le candidat Donald Trump parce que Donald Trump a aussi ramener beaucoup de choses pour le noir, entre autres le choix de school choice, donc le choix de l'école. Il a donné le Prosper Africa, il a cassé certaines assistances pour garder les familles noires dans la pauvreté. Et les noirs ont compris, ils sont éveillés maintenant avec tous les mensonges démocrates, avec cette histoire de Black Lives Matter qui était une vaste escroquerie. Et les noirs ont compris, nous sommes debout pour soutenir les candidats Donald Trump avec ses policies. On ne soutient pas Donald Trump parce que nous aimons Donald Trump. Nous soutenons Donald Trump parce que nous voyons ses policies, c'est l'imprimation de sa politique qui est à la promotion de l'homme noir dans son entièreté.
Joël Didier Ngo, vous venez de suivre deux points de vue relativement opposés. Hein. Alors, vous, comment est-ce que vous voyez les Noirs généralement sont majoritairement démocrates.
Voilà. J'ai été effectivement, évidemment, je respecte le point
tout
de vue de mon ami, mais il faut savoir que j'ai été démocrate aux États-Unis, proche. Donc, j'ai participé à la primaire de Barack Obama. Et Clinton notamment. Et il faut savoir que c'est Clinton qui avait le vote noir. Hein. Ce n'était pas Barack Obama au départ. Hein. Donc c'est pour dire que l'erreur que je dis toujours à mes amis démocrates, c'est de ne pas considérer que le vote noir est acquis. Les Noirs américains, notamment les plus jeunes, ne votent plus comme un seul homme pour les démocrates. Ils votent comme le reste des Américains sur des questions de fond. Cette fois-ci, ce sera forcément l'avortement, ce sera des questions liées, comme le disait tout à l'heure notre collègue. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, la question du vote des Noirs ne se pose plus comme elle se posait peut-être il y a 10 ou à l'époque de Clinton. Par exemple, il sera de plus en plus dur de rallier les Noirs simplement en jouant sur la fibre sentimentale. Ils ont des revendications qui sont plus très éloignées du reste des Américains sur un certain nombre de points. Et ce qui va faire la différence, c'est véritablement que le chef de l'État, actuellement celui qui a la Maison Blanche, ait répondu à un certain nombre de questions sociales qui touche prioritairement des classes pauvres, populaires, noires. C'est ça qui fera la différence sur le vote par rapport aux démocrates. Et là, je parle vraiment sur un point de vue démocrate.
Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission. Je vais vous donner une minute à chacun d'entre vous. Qu'attendent les Noirs dans la société des décideurs dans la société américaine d'aujourd'hui? Rapidement, en une minute chacun, on commence par le professeur Mbodge.
Je pense que les Noirs ne veulent pas être manipulés, justement, et au contraire de ce que dit notre collègue du Texas, c'est de dire que Black Lives Matter, ce sont des mensonges et que les Noirs ont été manipulés. C'est vraiment faire, montrer que les Noirs ne sont pas intelligents et ne sont pas capables de faire des choix raisonnés. Et ce choix raisonné se fera sur la capacité de maintenir le record extraordinaire d'emploi dont les Noirs jouissent maintenant. Le taux d'occupation des Noirs est le plus élevé dans l'histoire des États-Unis à ce moment-ci. Il y a d'autres aspirations à venir. Les relations avec la police, le système électoral qui de plus en plus, disons, traite les Noirs comme des électeurs de deuxième zone, c'est important pour les Noirs. Le maintien des programmes sociaux qui croient qu'on dise, même si ce sont les Blancs qui touchent le plus d'argent et par tête et d'une manière absolue de ces programmes d'aide, les Noirs veulent leur maintien parce qu'ils savent qu'ils ont été désavantagés depuis très longtemps dans l'histoire de ce pays, qu'ils ont construit de leurs mains, sont eux qui ont construit les routes, les chemins de fer, les ponts, les immeubles, etc. Et tout ça, maintenant, ils veulent bénéficier un peu plus.
Voilà. Junior Bonpetit, rapidement, en une minute.
En une minute, merci. Mais Black Lives Matter, nous avons vu le résultat. Certains individus se sont achetés des villas à Washington. Donc, la conclusion est là. Donc, l'attente de Noir, c'est que nous voulons, les Noirs s'attendent à l'économie et réduire l'inflation et avoir l'accès aux rêves américains, non à l'assistance, nous traiter comme des individus de seconde zone. Le Noir américain a un rôle central et il aura son compte avec les Républicains et Donald Trump.
Joël Didier Ngo, pour terminer.
Oui, je peux vous dire simplement que moi, je revendique Black Lives Matter et même Walk, hein, parce que simplement, rien n'est acquis. Il faut se battre pour faire savoir, pour garder les droits acquis, mais aussi revendiquer tous les droits qui font du Noir un citoyen à part entière d'un État, un grand État comme les États-Unis. C'est tout simple, c'est tout net. Me reconnaître dans ce qu'il apporte, de ce qu'a été son apport historique, son apport actuel dans l'économie comme dans tous les autres secteurs d'activité, ni plus ni moins.
Merci beaucoup, Joël Didier Engo, activiste des droits humains, spécialiste des relations internationales, président du comité de libération des prisonniers politiques en France. Nous avions aussi Junior Bonpetit, entrepreneur d'origine congolaise, basé au Texas, activiste politique affilié au Parti républicain, fondateur du mouvement Congolese for Trump. Et depuis New York, nous avions le professeur Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Et c'est la fin de cette édition de L'Amérique et vous, à la présentation Mohamedou Oumfa. Merci à Michel Joseph qui assurait la production. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com. Dans quelques instants, une édition complète d'informations Le Monde aujourd'hui. Au revoir.